Bonsoir Jean-Christophe Ruffin.
Bonsoir.
Alors vous êtes venu à la nage de Paris aujourd'hui pour nous présenter, il pleut à torrent, pour nous présenter Les Sept Mariages d'Edgar et Ludmilla aux éditions Gallimard. On peut dire que c'est une longue histoire d'amour.
Oui, 50 ans, c'est pas mal.
C'est pas mal. Mmh. Et c'est une histoire d'amour découpée un peu en trois temps. Mmh. Hein, on pourrait... Alors est-ce que ce serait juste de dire qu'il y a... la première phase de la jeunesse et de la fougue, la deuxième où tout le monde cherche un peu ses repères, un épanouissement personnel peut-être d'abord, et une troisième phase d'un amour plus serein. Ça vous irait ce découpage?
Oui, ça me va. Simplement, c'est pas comme ça que je l'ai imaginé, mais si ça vous va, moi ça me va. Hein, c'est pas.
Mais est-ce que ça donne ça au final?
Oui, bah, c'est-à-dire que. Dans toute vie, je pense que ça correspond à la, aux séquences d'une vie, si vous voulez, ou de deux vies en l'occurrence. Mais je l'ai pas conçu comme ça dans la mesure où, si vous voulez, je savais pas en écrivant ce livre combien de chocs il y aurait dans l'histoire de ce couple. Alors, il se trouve que le chiffre 7 est finalement imposé, mais d'une façon un peu artificielle, pour en faire presque... C'est le chiffre des comptes, etc. Donc, voilà. Mais, en effet, après, on peut regrouper les choses différemment. Mais, en réalité, c'est... Si vous voulez, l'idée centrale, c'est comment, dans la construction comme ça d'une histoire d'amour, finalement, peut se... Enfin, les séparations peuvent constituer des temps aussi importants pratiquement que les moments où on est ensemble. Voilà.
C'est ça ce que vous avez construit.
Au départ, c'était ça l'idée, c'est-à-dire de raconter une histoire dans laquelle finalement la séparation n'est pas une rupture définitive, c'est même presque pas une rupture du tout, c'est un lien qui justement se transforme. Voilà. Maintenant, on raconte ça, c'est pour ceux qui n'ont pas lu le livre, c'est incompréhensible. On aurait peut-être raconté quelque chose de plus concret.
Enfin, on devine quand même que sept mariages, ça veut bien dire qu'il y a des étapes.
C'est ça. Mais peu importe des mariages, pas mariages, si vous voulez. Ça, au fond, ça importe peu. Le sacrement lui-même, c'est pas ça la question. La question, c'est d'imaginer comment, au fond, en concevant comme ça une rencontre forte qui va donner lieu à une histoire... d'amour très passionnel, si vous voulez, comment cette histoire peut se déployer dans le temps, et c'est le temps long, puisque, comme vous l'avez dit, ça fait 50 ans, ça fait un demi-siècle d'histoire, et comment, au cours de ce temps, finalement, il y a une succession de séparations et de retrouvailles qui sont au moins aussi importantes. Moi, je trouvais ça... Enfin, on ne sait jamais pourquoi on écrit les livres, si vous voulez, mais je trouvais que ça correspondait assez bien à ce qu'est le monde d'aujourd'hui, c'est-à-dire un monde dans lequel finalement la vie s'allonge, donc les gens se séparent plus, ça tout le monde le sait, mais ils se retrouvent aussi plus. Et je trouvais ça intéressant de suivre cette espèce de logique des sentiments finalement, hein, à travers ce couple et la façon dont ils se déchirent et se retrouvent.
Voilà. Vous avez évoqué les contes. Ça, c'était présent pendant votre écriture?
Oui, parce que, si vous voulez, je fais partie de ces écrivains qui aiment bien raconter des histoires et qui mettent en avant le récit. C'est-à-dire que je ne suis pas un écrivain de l'intime, je ne suis pas un poète non plus, je suis quelqu'un qui raconte des histoires. Et l'histoire est très proche du conte, en fait. C'est-à-dire que l'histoire, ça consiste à prendre un lecteur sur les genoux, si vous voulez, et puis à lui dire, avant de te coucher, je vais te raconter une histoire. Voilà. Et alors, l'idée n'est pas forcément de l'endormir, d'ailleurs, hein, mais c'est plutôt de faire en sorte que cette histoire, il ait envie, justement, de l'entendre. Et on est toujours un peu chez Razade quand on fait ça. C'est-à-dire c'est toujours un petit peu... le sultan qui va vous couper la tête, mais qui va pas le faire cette nuit parce que il veut connaître la fin de l'histoire. Voilà. Et donc le conte est toujours très proche. Et je vois pas d'ailleurs de différence fondamentale entre le récit et le conte, en tout cas pour les romans que je fais. Voilà. Donc c'est pour ça que, en insistant un tout petit peu sur cette dimension du conte, si vous voulez, on donne aussi un caractère plus universel à un récit, c'est-à-dire que ça n'est pas simplement la description d'un couple précis et d'un lieu précis, c'est aussi quelque chose qui concerne tout le monde, en fait.
Alors justement, à propos d'universalisme, dans ce roman, il y a vraiment des points où effectivement on se dit que on est tous concernés. Par exemple, il y a un passage très intéressant au début où les deux personnages arrivent à Paris et où vous décrivez leur façon d'arriver à Paris, qui est diamétralement opposée, qui est un ingrédient incontournable dans une histoire d'amour. On ne vit pas la même chose que l'autre, mais on ne s'en rend pas compte.
Non, si vous le dites...
Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui,
vous l'avez quand même écrit, hein?
Oui, bien sûr. Je vais peut-être revenir un petit peu en arrière, c'est-à-dire de dire de qui il s'agit, en fait. Il s'agit d'un couple que j'ai imaginé à partir d'un livre que j'ai toujours connu dans la bibliothèque de ma mère, qui était un livre de Dominique Lapierre, l'auteur de La Cité de la Joie, et puis qui a écrit beaucoup de romans avec Larry Collins, Paris brûle-t-il, etc. Et il avait fait, très jeune, hein, ils avaient, je sais pas, 25 ans, quelque chose comme ça, ils avaient fait un voyage à travers l'Union soviétique, après la mort de Staline, juste après la mort de Staline, à l'époque de Khrouchtchev, quand l'Union soviétique s'est entrouverte un petit peu, pour montrer un petit peu ce qui se faisait. Les Soviétiques ont accepté que ces quatre jeunes gens, un jeune Français, avec une grosse bagnole qui s'appelait une Marly, hein, c'est-à-dire les Marly, pour ceux qui ont connu ces époques, c'était des Simca. Vous voyez, alors vous êtes beaucoup trop jeunes pour avoir connu ça, mais les Simca, c'était un peu les voitures américaines françaises, vous voyez, d'après-guerre, c'est des grosses bagnoles qui ressemblaient à des baignoires un petit peu. Et il y avait la Versailles, il y avait la Ronde, ça c'est la Ronde, c'était la Chambord, voilà, tout à fait. Je vois qu'il y a des connaisseurs dans la salle, voilà. Et moi, comme un certain nombre d'entre vous sans doute, j'ai vomi en étant petit à l'arrière de ces voitures qui avaient des suspensions épouvantables. C'est-à-dire, bref, ils ont pris une Marly. Et avec donc ces deux garçons qui étaient un Dominique Lapierre et l'autre un grand photographe de presse qui s'appelait Jean-Pierre Pedrazini et qui a été tué peu de temps après au moment de l'insurrection de Hongrie à Budapest. Il a sauté sur une mine et est mort à ce moment-là. Ils sont partis avec deux copines et ils ont traversé l'Union soviétique. Ils ont apporté un livre qui a été réédité récemment, qui s'appelle Russie porte ouverte. Bon, pourquoi je suis parti de ce livre? Parce que j'ai rêvé sur ce livre pendant mon enfance. C'est bizarre, hein. J'ai rêvé sur ce livre parce que c'était un monde absolument inouï, cette Union soviétique et les photos, parce qu'il y avait pour part égale des photos et des textes. Ce monde me paraissait complètement étonnant, d'autant plus qu'on entendait parler à cette époque-là que sous la forme de menaces nucléaires, etc. Et là, on voyait des gens très simples, très pauvres d'ailleurs, hein, qui étaient là. Et je me suis toujours imaginé dans ce convoi, dans cette Marly, là, et en me disant finalement, certainement, c'est le lieu possible d'une rencontre. Mais d'une rencontre, bon, là, ils étaient partis avec leurs copines, mais enfin, il faut imaginer qu'on pousse un tout petit peu les copines et qu'il puisse y avoir une rencontre. Plus une rencontre amoureuse qui se passe là et qui serait pas seulement la rencontre entre deux personnes, hein, mais la rencontre entre deux mondes, en fait, hein, deux univers complètement. Et c'est ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'Edgar, lui, c'est un des conducteurs de ce véhicule. C'est un petit Français, au fond, de l'après-guerre, vous voyez, comme ça. Et elle, Ludmila, c'est une fille qui est née dans l'Ukraine. En Ukraine, très très déclassée en quelque sorte, une famille de musiciens, mais qui a été le père a été déporté au goulag, etc. Elle est élevée par sa mère, et voilà. Il y a d'abord cette rencontre se fait sous la forme d'une sorte de provocation, puisque elle apprend qu'il y a cette voiture qui va passer. Et pour se faire remarquer, elle sait pas très bien ce qui va se passer, mais pour se faire remarquer, pour que la voiture ne s'arrête pas et que ces étrangers puissent éventuellement la voir, elle monte dans un arbre au centre du village et elle se déshabille. Se déshabille, c'est pas pour s'exhiber, c'est juste pour créer un attroupement, un scandale, que la voiture s'arrête et qu'effectivement elle la voit. Et là, il y a une double rencontre, enfin une rencontre qui se fait entre deux, et qui est un double sentiment, si vous voulez, à la fois d'amour à travers effectivement un regard, parce qu'au fond, au départ, ils ne peuvent pas se parler, et de culpabilité pour Edgar, parce que finalement, cette fille, on va la, évidemment la faire descendre de son arbre, on va lui taper dessus, on va aller la cacher quelque part, et lui ne la protégera pas. Et il y a donc finalement à ce moment-là quelque chose d'extrêmement fort qui se produit, qui est à la fois ce mélange de possible et d'impossible, si vous voulez, c'est-à-dire de quelque chose qui peut advenir, un amour qui déjà se constitue, mais qui ne peut pas prendre forme, puisque tout de suite, ils sont séparés. Voilà. Et donc, effectivement, il va revenir, il va réussir à l'arracher de là, et j'en arrive à votre question, Sylvie, pardon.
Non, mais j'aime bien ce que vous racontez. Vous racontez les histoires, on est tous sur vos genoux, là.
Eh bien, heureusement que vous n'êtes pas tous en même temps, mais c'est... voilà, et finalement, ils arrivent à Paris. Et en effet, elle ne voit pas les choses du tout de la même manière, puisque lui, au fond, Paris, il connaît, c'est là qu'il est né. Quand il arrive à Paris et qu'il voit les choses à travers son regard à elle, il a plutôt l'impression de l'avoir entraîné dans une galère, parce qu'il n'a pas d'argent, il a mis tous ses sous pour arriver à monter cette expédition pour la sortir de là. Donc, au fond, il n'a rien à lui proposer, à lui offrir, et comme il a une conception assez machiste un petit peu de la vie, il se dit que le rôle d'un homme, c'est de, voilà, de subvenir à son besoin de sa femme, etc., et il se rend compte qu'il est en échec, alors qu'elle, elle est très heureuse de découvrir ça. Et elle voit tout avec des couleurs, même le gris, tout ça, elle le voit avec bonheur. Donc effectivement, il y a ce croisement, et ça n'arrêtera pas, et c'est ça que je trouvais intéressant, c'était de tout le temps faire dans ce couple, si vous voulez, suivre cette espèce de malentendu qui n'empêche pas l'amour d'ailleurs, et qui peuvent même le nourrir d'une certaine manière, mais qui aussi crée des ruptures, parce qu'il y a des moments où, à force de malentendus, on finit par se déchirer, quoi.
Ah, c'est assez christique, hein, quand même, parce que Ève, nue dans un arbre, quand ils arrivent à Paris, lui, il vend des Bibles. Elle travaille, elle donne des cours de français dans une institution religieuse. C'est quoi votre rapport avec le sacré, Jean-Christophe Ruffin?
Non, mais alors là, vous avez fait des raccourcis stupéfiants, parce que je n'avais jamais pensé à tout ça. Non, en fait, oui, il vend des Bibles parce qu'il faut qu'il gagne sa vie, et vend des Bibles parce que c'est mieux que de vendre, je ne sais pas quoi... des cerises, je sais pas, enfin voilà. Non, c'est pas christique du tout. Non, ils sont plutôt même. Non, ce qui est très important, c'est peut-être ça aussi mon rapport personnel d'ailleurs, c'est la spiritualité, c'est-à-dire le fait que quand effectivement ils vont se séparer, qu'elle va se retrouver dans cette institution religieuse, sans qu'on l'y contraigne, mais elle va aller à la chapelle, elle va aller dans l'église. Et là, elle ne comprend pas les offices, les messes, parce qu'elle ne parle pas le français encore, et elle ne parle pas non plus le latin. Donc, elle ne comprend pas, si je puis dire, les paroles. En revanche, ce qui va lui parler, et ce qui va, d'un point de vue spirituel, l'émouvoir terriblement, c'est la musique. Parce que d'abord, elle est d'une famille de musiciens, et puis, la musique éveille effectivement des sentiments qui sont universels. Et donc, la spiritualité, là, elle passe par la musique. Et comme elle chante... elle ne sait pas qu'elle chante bien, d'ailleurs. Elle était dans sa campagne, elle chantait pour se désennuyer comme ça, mais elle ne sait pas. Et c'est quand elle est sous les voûtes de cette église et qu'elle chante que les bonnes sœurs se disent « Oulala, oulala, elle a vraiment une voix. » Vous savez, quand elle chante, puis que la messe reprend, que le curé doit se relever et tout, le curé. Et il est, je veux dire, c'est très fort. Vous savez, quand quelqu'un, vous avez tous eu cette expérience de voix qui tout d'un coup font passer comme ça un sentiment spirituel très fort. Et moi, c'est vrai que, sur un instant, puisque vous m'avez posé la question, mais ma spiritualité passe beaucoup, en ce qui me concerne, par les lieux. J'ai été élevé au pied d'une cathédrale à Bourges. Oui, mais j'étais d'une famille qui n'était pas très religieuse, pas du tout même. Mais si vous voulez, c'est vrai que d'entendre les orgues à la cathédrale, d'entendre des voix dans une voûte de cathédrale, c'est quelque chose d'extrêmement fort. Et c'est une expérience moi, que j'ai faite en voyageant, parce que c'est vrai que je peux aller dans une mosquée, je peux aller dans une synagogue, je peux aller dans un temple bouddhiste, je ne suis pas chez moi. C'est-à-dire que j'ai un grand respect pour ce qui s'y passe, mais je ne suis pas chez moi. J'entre dans une cathédrale, Je suis chez moi, c'est-à-dire que j'ai conscience, si vous voulez, que le lieu est pour moi absolument indissociable de l'éveil à cette spiritualité-là. Quoi, voilà. Mais ça n'a rien à voir avec le livre. Hein. Non, mais c'est vrai.
Ça, c'est ce que vous dites. Alors, Edgar est un personnage très flamboyant, mais alors il a beaucoup de ratage. En matière de romantisme, en revanche, il a beaucoup de panache.
Bah, c'est un malin déjà. C'est un malin. C'est quelqu'un qui se débrouille parce qu'il vient d'un milieu très très modeste. Il a fallu qu'il se débrouille. Donc, c'est ce qu'il faut faire pour s'en sortir. Il est malin. Il n'est pas forcément très cultivé. Il n'est pas forcément très psychologue. Il n'est pas forcément très instruit, mais il est malin et c'est une intelligence que moi j'aime beaucoup. C'est-à-dire que c'est des intelligences comme on en trouve autour de nous qui sont pas forcément consacrées par un diplôme ou par une reconnaissance, je sais pas, universitaire et tout, mais des gens qui tout à coup vous mettent en présence juste d'une intelligence, quoi, et qui peut parfois d'ailleurs. Comment dirais-je, moi j'ai un ami comme ça, par exemple québécois, qui a été élevé pratiquement dans la rue et qui est pratiquement analphabète, mais c'est une des personnes les plus intelligentes que je connaisse, parce qu'il a cette intelligence des gens, des situations, etc. Que voilà, bah, lui c'est un peu ça, quoi, voilà. Mais ce qui évidemment le conduit à des réussites, puis à des échecs, parce que tout ça est empirique, et puis parce qu'il part de rien, puis parce qu'il n'a pas beaucoup de scrupules non plus, et que il tente des choses, alors elles fonctionnent ou pas, quoi, voilà. C'est...
Avant de réussir à être en paix avec Ludmilla, on voit bien, il a, enfin, sa vie passe par des circonvolutions variées. Il doit d'abord trouver qui il est. Il doit d'abord aussi régler un peu son envie de sauver sa mère.
Oui, bah, bien sûr, parce que sa mère est une femme très pauvre qui a beaucoup travaillé pour l'élever, tout simplement. Et au fond, sauver Ludmilla était probablement une sorte de moyen, au fond, dérivé, quoi, de sauver sa mère, qui était déjà décédée. Donc, c'était juste... oui, bien sûr. Mais de toute façon, moi, je crois ça profondément. C'est-à-dire que je pense que pour atteindre une capacité, pour arriver un jour à aimer vraiment, si vous voulez, il faut d'abord se connaître. Et ça prend du temps. Ça prend du temps. C'est pour ça que je dis à la fin que les jeunes... finalement se précipite vers le mariage, mais ils ont tort, faut attendre, ça prend du temps d'arriver, il commence par la fin en quelque sorte, voilà. Et c'est vrai que peut-être, parce que c'est peut-être quelque chose de personnel, mais je pense qu'on n'est pas capable de s'ouvrir à quelqu'un d'autre tant qu'on n'a pas vraiment fait tout un chemin sur soi-même, c'est ce qui lui arrive.
Ce personnage, il a de vous dans son rapport à sa mère, à son père. C'est un papa poule aussi. Vous dites dans ce livre, c'est un papa poule faute de papa. C'est vous ?
C'est des divans qu'il aurait dû mettre, Denis. Là, c'est pas.
Ah ben vous l'avez écrit, hein ? Tant mieux pour vous.
Oui. Ben oui, non, ben oui, sans doute, sans doute. Ben, vous savez, les écrivains, ils trouvent leur pitance en eux-mêmes. Hein. Ils ne vont pas la chercher ailleurs. Et donc, moi, je suis un peu un adepte de je crois que c'est Pierre Assouline dans sa biographie de Simenon qui dit que l'œuvre de Simenon est une autobiographie éclatée. Voilà, c'est-à-dire que, à travers des livres qui n'ont rien à voir, des Maigret, des livres, des romans durs, etc., Simenon n'a parlé que de lui. C'est comme ça, forcément. C'est forcément des autobiographies éclatées. Donc, ça veut dire qu'il y a des petits bouts, comme dans tout éclatement, si vous voulez, il y a des petits bouts qui se baladent. Et certainement, moi, j'ai... Oui.
Dans celui-ci, plus que dans les autres ?
Oui, peut-être. Mais je crois qu'en réalité, moi j'ai fait cette expérience, on en parlait tout à l'heure, ça fait 22 ans que j'écris des romans maintenant, c'est terrible. Et je me rends compte qu'en fait, je n'ai pu le faire que à chaque fois qu'il y avait un lien très personnel entre le sujet Et moi, si vous voulez, c'est-à-dire que je ne suis pas capable d'écrire sur un sujet qui ne me concerne pas, au sens d'une manière d'ailleurs que je ne connais pas a priori, vous voyez, mais par exemple, quand j'ai écrit sur Jacques Coeur, vous voyez, je ne savais pas du tout à quel point ce serait en fait en symbiose avec ce personnage, qui fait que j'ai presque écrit une autobiographie, mais qui se passe au 15e siècle, si vous voulez. Voilà. Parce qu'il y a vraiment deux sortes d'écrivains. Il y a ceux qui peuvent parler d'eux-mêmes directement, et il y en a beaucoup, hein, quand même beaucoup, qui peuvent raconter leur propre histoire, qui peuvent mettre en scène leur propre histoire, les personnages qui sont autour d'eux, voilà, avec parfois même leur nom réel, etc. Moi, je suis incapable de faire ça. Je suis incapable. Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas. C'est par pudeur, peut-être, ou peut-être parce que, étant médecin à l'origine, j'ai prêté le serment d'Hippocrate et je n'ai pas le droit de révéler ce que j'ai vu en entrant dans les maisons. En tout cas, je ne peux pas raconter directement. Donc, il faut passer par la fiction. Donc, voilà. Alors, après, on peut essayer de recoller les morceaux, de voir ce qui appartient à qui. Mais
vous y tenez pas plus que ça.
Ben non. Au contraire, même. Je préfère, si vous voulez, que, et c'est là que la notion de conte, je préfère que le lecteur s'approprie cette histoire. Je préfère que ça devienne son histoire que la mienne, si vous voulez. Voilà. Et au fond, c'est le but, quand même, dans un livre. Un roman, c'est un cadre qui est offert au lecteur pour y projeter ses propres fantasmes, si vous voulez. L'auteur ne doit pas tout imposer. Il propose un cadre, il propose un récit. Mais pour en revenir au conte, si vous voulez, quand vous racontez un conte à un enfant, c'est pour le faire rêver. Hein, c'est pas pour l'enfermer dans un récit. C'est pour, au contraire, qu'il le complète. Vous voyez, c'est la même chose.
Mais votre vision est très moderne, parce que c'est quand même Edgar qui va s'occuper de sa fille, et c'est Ludmilla qui va faire une carrière internationale. C'est un hasard.
Non, mais d'abord, si vous voulez, les deux, enfin, sur ces 50 ans, ce qu'on suit, c'est l'évolution d'une époque, hein, l'évolution d'une société, c'est la nôtre, sur 50 ans. Et donc, ce qui leur arrive, c'est aussi ce qui arrive à la société, à l'extérieur d'eux. C'est-à-dire que quand l'histoire commence, c'est le reflet de ce qu'on a pu connaître, par exemple, avant mai 68 et autres. C'est-à-dire ces cadres très fixes, assez rigides, si vous voulez. Moi, par exemple, quand j'étais enfant, puisque vous tenez absolument ce que je parle de moi, mais quand j'étais enfant, j'étais pratiquement le seul enfant de parents divorcés dans ma classe. Bon. Aujourd'hui, c'est le contraire. Les gamins qui disent « Ah, tes parents sont ensemble ». Bon, pratiquement, ça s'est inversé, si vous voulez. Et tout ça, c'est le fruit d'une évolution. Ce qui fait que moi, je ne fais pas du tout partie des gens qui pensent que les choses étaient mieux avant. Pas du tout. Parce que moi, je suis né après une guerre mondiale qui a fait 60 millions de morts. J'étais dans une société qui était très figée, avec des codes sociaux extrêmement rigides, par une mère qui a dû travailler très très dur juste pour pouvoir exister dans un système comme celui-là. J'idéalise pas ça par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui, pas du tout, vraiment pas du tout. Et justement, c'était l'occasion pour moi de revisiter ces ruptures, enfin ces avancées aussi, parce que et en effet, ce que vous soulignez, la façon de se comporter avec ses enfants, le rôle des parents, le rôle respectif des parents et tout, ça a beaucoup changé, quoi. Ça a beaucoup changé au cours de ces 50 ans, et moi je trouve ça plutôt bien.
Vous avez fait référence à une de vos activités qui a été la médecine. Et ce personnage, Edgar, tout le monde se confie facilement à lui. Et donc, c'est le côté du médecin. Le médecin, c'est quelqu'un qui doit écouter. Il a de ça, ce personnage, qui sait écouter, ou en tout cas à qui on se livre facilement.
Oui, ben ça, j'y crois beaucoup, parce que pour moi, si vous voulez, la médecine n'a rien à voir avec la pratique médicale. C'est-à-dire que aujourd'hui, je pratique pas la médecine, mais je suis médecin. Je suis médecin et je ne serai jamais rien d'autre. Je peux faire les pieds au mur, je peux apprendre la flûte à bec, le ukulélé, enfin, peu importe, je serai toujours médecin. C'est-à-dire que ce que j'ai appris entre 18 et 25 ans, si vous voulez, m'a donné une manière d'être au monde, de comprendre le monde, etc., qui est définitive. C'est, voilà, c'est, il y en a d'autres qui deviennent juristes, il y en a d'autres qui deviennent, je sais pas, cuisiniers, peu importe, mais on acquiert quelque chose à ce moment-là pour la vie. Et alors, ce quelque chose, pour ce qui est de la médecine, n'a, à mon avis, rien à voir avec la technique. C'est-à-dire que, et c'est ce que je dis quand je rencontre des étudiants en médecine, je t'entends dans les facs et tout, je leur dis, la médecine existait à l'époque, à des époques, où il n'y avait aucun médicament, aucun, il n'y avait rien pour soigner les gens, et pourtant, il y avait des médecins. Vous voyez, il y a, je sais pas, il y a 2 siècles, 3 siècles, il y avait des médecins, et pourtant, ils étaient... Alors, mon grand-père était un peu le... Mon grand-père était un peu le survivant de ça, c'est-à-dire que il avait été formé, il était né à la fin du 19e siècle, il avait été formé à une époque où la médecine était quand même pas très efficace. Hein. Ma grand-mère a fait une embolie pulmonaire après la guerre, même pendant la guerre, d'ailleurs, et elle a été traitée, pour vous donner une idée quand même des moyens qu'on utilisait, on l'a enveloppée dans des draps mouillés, froids. Pour la soigner, vous voyez, genre quoi, c'est à dire qu'on n'avait vraiment rien, et les antibiotiques, les trucs, c'est après la guerre, quoi. En gros, avant la guerre, quelques petites choses, mais on peut estimer que la médecine, au sens où on l'entend nous aujourd'hui, c'est à dire de l'efficacité thérapeutique, ça n'existait pas, et pourtant, il y avait des médecins. Et alors, quel était le sens de leur vie et de leur métier? C'était justement ce que vous dites, c'est-à-dire c'était d'écouter, c'était de prévoir. Le pronostic en médecine est pratiquement plus important. Il est lié évidemment au diagnostic, mais il est pratiquement plus important que la thérapeutique pour moi. C'est-à-dire que alors aujourd'hui, évidemment, il y a la thérapeutique, il y a l'efficacité. On a tendance à ne voir que ça. Mais en réalité, ce que les malades demandent, ce que les patients demandent, ils ne sont pas forcément malades, c'est qu'on leur dise ce qui va se passer. C'est ça, la médecine. C'est-à-dire c'est de pouvoir comprendre ce qui, à travers un désordre du comportement ou de la physiologie, etc., vers quoi ça va. Et ça reste vrai, vous savez, ça reste vrai, parce que moi, je le vois, et c'est terrible d'ailleurs, c'est une des choses qu'on acquiert en étant médecin, c'est cette capacité, malheureusement, à voir les choses avant qu'elles se produisent. Et j'appartiens à une compagnie, Académie française, où il y a beaucoup de gens âgés ou malades. On a perdu 2 là, cette semaine. Aucun des deux, enfin la mort d'aucun des deux ne m'a surpris, parce que je savais depuis plusieurs mois ce qui se passait, c'est-à-dire que je l'avais vu, et c'est une chose qui est presque, je pense que c'est il y a presque un caractère sacré, si vous voulez, dans la fonction du médecin, parce qu'il est dépositaire de ça aussi, c'est-à-dire de cette anticipation sur ce qui va se produire. Vous voyez, c'est ça. Et donc, bon, cette vertu ou cette capacité, elle peut aussi exister chez des gens qui ne sont pas médecins. Et c'est en ça qu'effectivement, on peut trouver ces qualités aussi chez Edgar.
Et quand vous dites, quoi qu'il arrive, je suis médecin et je resterai médecin, c'est parce que c'est devenu constitutif pour vous? C'est-à-dire que c'est un prisme dans tout ce que vous faites, dans les gens que vous croisez, vous avez ce regard permanent sur qu'est-ce qui demain?
Il y a ça, et puis quand je suis avec d'autres médecins, si vous voulez, on se comprend, on voit les choses de la même manière. C'est très très curieux. Je saurais pas le définir, et je pense qu'aucun d'entre nous ne sait le définir, mais on a une façon d'interpréter, de voir, d'abord de regarder. C'est un art du regard, la médecine, d'abord, comme la littérature d'ailleurs, mais sous une autre forme. C'est-à-dire que le regard médical dessèche, il va vers le syndrome, vers la maladie. C'est-à-dire qu'il il élimine les détails, si vous voulez, inutiles, superflus, etc., pour aller vers l'arbre diagnostique. Le regard littéraire, au contraire, il absorbe tout et il détaille beaucoup. Mais ce sont des arts du regard, c'est-à-dire que les médecins sont formés à ça, à regarder les personnes. Et aller regarder et à comparer leur évolution, etc. Bon, il y a ça. Bon, la chose, si vous voulez, c'est pourquoi je dis ça, c'est parce que je me suis rendu compte. Moi, j'ai fait d'autres métiers. J'ai été diplomate, j'ai fait d'autres métiers, mais au fond, c'était des expériences, vous voyez. C'est-à-dire, c'était des il n'y a pas que des petits boulots, mais enfin, c'était des choses que non, mais vous voyez que je prenais pas tellement au sérieux. D'abord parce que je trouvais que, au fond, on était sans doute les seuls. Enfin, la médecine vous apprend à travailler beaucoup et très tôt. Et j'ai trouvé peu de métiers où les gens travaillent autant. Franchement, donc il y a déjà ça, qui fait que on n'a pas l'impression que ce soit sérieux que ça. Vous voyez, et puis surtout, ça n'est pas votre métier. C'est-à-dire, moi, j'ai par exemple, quand j'étais diplomate, je me suis très bien entendu avec les autres ambassadeurs, etc. Je trouvais ça, mais je n'appartiens pas à ce monde. J'ai rempli des fonctions diplomatiques, j'ai représenté notre pays dans une grosse ambassade en plus. C'était un épisode parmi d'autres. C'était pas ma vie.
Il y a aussi de votre expérience de diplomate dans ce livre, quand vous parlez de Ludmila, déjà qui arrive dans un pays qu'elle ne connaît pas. Donc, il y a quand même des références à ce que peut représenter la difficulté de l'exil.
Oui.
Du mélange des cultures.
Oui.
Et puis, il y a aussi des descriptions qui sont parfois très, très drôles sur le regard que vous pouvez porter sur les codes, la manipulation, la presse. Enfin, voilà, tout un microcosme qui n'est pas forcément des plus sains.
C'est vous, la journaliste, hein, je ne peux pas...
Bon, mais en fait, alors voilà, cette expérience de diplomate, elle vous a quand même laissé une grande expérience humaine. Autant que la médecine, d'une autre façon, non?
Oui, enfin, vous savez, enfin, ça dépend, parce que les trois années que j'ai passées comme ambassadeur, je vois plutôt comme une captivité, vous voyez, c'est-à-dire que j'étais enfermé dans une cage dorée, assez vaste, mais quand même une cage, protégé, à distance des autres, toujours, c'est-à-dire que à partir du moment où vous remplissez des fonctions officielles, surtout dans un pays étranger, ben évidemment il y a des risques qu'on ne peut pas vous faire prendre, donc on vous surveille, on vous observe, on vous suit, on vous précède, enfin c'est voilà. Évidemment, c'est pas très propice au contact direct. Bon, même si je faisais des efforts quand même pour ça. Non, moi je pense que ce qui m'a le plus appris, c'est plutôt les expériences à travers l'humanitaire, si vous voulez, en tant que médecin dans une pratique à l'étranger, mais plutôt dans l'humanitaire. C'est surtout là que j'ai vu des choses intéressantes, parce que là c'est sans filtre, si vous voulez. Quand vous êtes dans une mission en situation comme ça de guerre, de catastrophe, etc., vous êtes surtout. Bon, moi, je remplis surtout des fonctions d'encadrement pour établir des missions, etc., en arrivant un peu parmi les premiers et tout. Et là, on est face à la compréhension, disons, de situations qui vous arrivent à la figure. Et là, on n'a pas de protection. Vous voyez, très peu, très, très peu. Donc c'est très enrichissant. Mais bon, les fonctions diplomatiques, je pense qu'elles sont... Enfin, il y en a qui sont... Il y a des diplomates qui prennent des risques, mais enfin... Pas beaucoup. Enfin, non, mais voilà, c'est tout. Mais c'est tout. Voilà,
c'est tout. Non, mais indépendamment du risque, en fait, en ayant été médecin, diplomate, avec des fonctions humanitaires, vous avez quand même fait d'abord beaucoup de voyages et puis rencontré beaucoup de comportements, de codes extrêmement variés. On sent vraiment ça dans votre livre. Là, il y a beaucoup de ça quand même.
Oui, oui, mais bien sûr. Mais moi, j'adore ça. Je trouve ça extraordinaire d'arriver à essayer d'essayer. Je dis bien parce que c'est pas facile, mais de comprendre des situations dans des contextes différents. Mais en même temps, si vous voulez, j'ai pas été non plus si exposé que ça. J'ai pas connu l'exil moi-même. Ce qui, je pense, est une épreuve qui est particulièrement constructrice, constructive, enfin en termes de personnalité et tout, et vraiment comprendre un pays, il faut y séjourner longtemps, voire y être en exil d'une certaine façon. Donc ça, je l'ai pas vécu.
On voit bien que Claude Minal se débat quand même. C'est pas simple.
Oui, oui, parce que c'est une exilée. Et je pense que dans l'exil, moi je l'ai pas vécu, mais je l'ai observé beaucoup. Il y a dans l'exil quelque chose qui est alors là, vous qui aimez les phases successives, là il y a trois phases. Il y a la phase d'enthousiasme pour et d'effort pour s'intégrer dans un pays. Il y a la phase où on est enfin en quelque sorte reconnu, etc. Puis il y a des phases de nostalgie puissante, quoi, qui vaut. Je pense que la transplantation comme ça culturelle reste quand même un arrachement malgré tout. Enfin, ça dépend dans quel contexte c'est fait. Si vous pouvez retourner chez vous, ça c'est différent. Mais quand vous êtes vraiment arraché à votre monde et que vous intégrez dans. Donc là, je parle d'exil réussi entre guillemets, hein, mais il comporte toujours une part de perte en fait. Hein, et moi, il se trouve que par le hasard un peu de la vie, ou peut-être pas le hasard d'ailleurs, c'est ce que me dirait. Faudrait voir un concessionnaire Freud pour avoir d'explications. Mais ma première femme était d'origine russe. Et c'était des familles qui avaient tout perdu avec la révolution, et il y avait cette dimension là, même si elle-même n'avait pas fui, la famille l'avait fui, et ils se sont retrouvés ensuite en Russie, c'est-à-dire qu'ils sont retournés dès que l'Union soviétique est tombée, ils sont retournés en Russie, par exemple. Et ma deuxième femme était aussi d'origine étrangère, et c'est pareil, maintenant elle est retournée. Enfin, il y a vraiment une dynamique comme ça, et Ludmila, c'est quelque chose qui la travaille, qui la déchire profondément. C'est-à-dire que cet exil n'est pas quelque chose qui peut, à un moment donné, s'oublier, je pense.
Vous croyez au destin? Vos personnages, ils sont destinés? Il y a quelque chose de cet ordre-là dans ce livre ou pas?
C'est-à-dire, pour un auteur, forcément, puisque c'est vous qui le faites, le destin. C'est-à-dire que c'est ça le privilège, mais il faut s'en garder aussi. C'est-à-dire que l'auteur d'un roman tient entre ses mains le destin des personnages. Donc forcément, il y en a un, puisque sinon vous n'existez pas, c'est vous qui leur donnez cette vie. Cela dit, ce destin vous échappe parfois. C'est Patrick Rambaud qui raconte ça toujours, fait rire lui, parce que vous savez, il avait écrit un livre qui avait le prix Goncourt, qui s'appelait La Bataille, et il a fait une suite. Je ne sais plus quel était le titre, mais et il raconte, il dit, il y avait un personnage que j'aimais beaucoup dans le premier tome, et je voulais l'utiliser dans le deuxième, mais entre-temps, il est tombé de cheval et il s'est tué. Et c'est vrai que ça arrive, c'est-à-dire qu'il y a des personnages qu'on ne peut pas, auxquels on ne peut pas donner le destin qu'on voudrait, parce que ils sont au bout d'un moment, mais c'est pas parce qu'ils tombent de cheval, c'est parce qu'il y a une logique propre dans leur destin ou dans ce que vous avez créé de leur destin qui leur interdit d'aller plus loin ou qui les oblige à partir dans une autre direction. Mais c'est des choses qui, malgré tout, s'imposent, quoi. Mais cette histoire de destin, si vous voulez, je ne sais pas, enfin, bon, si ça répond à votre question, mais. Ce que j'aime, c'est des personnages qui, en tout cas, ont une certaine confiance. Alors, en eux, c'est-à-dire en eux, dans le monde, dans leur vie, dans ce qui peut leur arriver. Voilà. Alors, on peut appeler ça le destin, si vous voulez, mais je n'aime pas les personnages désespérés. Voilà. Ça me dans les livres, dans les livres que je lis, comme dans ceux que j'écris, je n'aime pas retrouver. Le désespoir, ça me décourage. Justement, peut-être pour revenir à la médecine, moi j'ai fait un métier dès le départ, 20 ans, qui était un métier qui m'a mis en contact avec la souffrance, avec la mort, avec la maladie, avec le désespoir, etc. J'ai pas envie de retrouver ça dans la littérature. Je cherche autre chose. Je cherche dans la littérature, je cherche à y mettre, je cherche à y trouver quelque chose qui me donne une sorte de joie de vivre, qu'est-ce que vous voulez. Et je pense que c'est ce qui fait... Enfin, je crois qu'il faut demander au public, mais c'est vrai que ce qui fait la rencontre avec les lecteurs, pourquoi j'ai beaucoup de lecteurs, c'est parce que je pense qu'on communique autour de ça. C'est-à-dire que cette force des personnages, et alors appelez ça le destin si vous voulez, en tout cas cette confiance qu'ils ont en eux, même s'ils traversent des moments difficiles, eh bien, c'est quelque chose que le lecteur perçoit. Et au fond, si vous créez des personnages qui ont cette force, ils vous tirent, vous, auteur, c'est-à-dire que quand je me mets à une table le matin pour écrire, si vous voulez, j'y vais pas avec des semelles de plomb, je les retrouve avec plaisir, parce que je sais qu'ils vont me porter, vous voyez. Et je pense que pour le lecteur, c'est pareil. Voilà. Et moi, j'utilise ça comme une espèce de boussole. C'est-à-dire quand je commence à voir... La boussole qui s'affole, le truc qui m'ennuie, les personnages qui flottent, qui se demandent, etc. Où ils vont, etc. Quand ils n'ont plus confiance, en quelque sorte, je sais que je fais fausse route, quoi. Que le récit est en train de s'ensabler. Voilà, je vous donne cette...
Et vous êtes arrivé de commencer des livres et puis d'arrêter justement parce que les personnages faisaient fausse route, tombaient de cheval?
Oui, oui, oui. D'ailleurs, j'ai un ami qui est un écrivain américain qui, ça fait un moment que je l'ai pas vu, je sais pas ce qu'il devient, Thomas Harris, qui a écrit le Silence des agneaux et tout ça, et qui ne donne jamais d'interview. Moi, j'ai eu la chance de le côtoyer beaucoup, et il a utilisé une expression que j'ai toujours gardée, je trouve très marrant. Il disait ce livre est mort entre mes bras. Et alors, il disait, j'ai travaillé tout l'hiver et puis le livre est mort entre mes bras. Voilà, c'est-à-dire qu'il avait fait tout ce qu'il pouvait, le massage cardiaque, le bouche à bouche, coulait, mais ça marchait plus. Quoi. Le truc, il n'y avait plus de son, plus d'image. Voilà. Et alors, moi, ça ne m'arrive pas parce que... Enfin, si, le premier roman, évidemment, qui devrait toujours... faudrait toujours commencer par le deuxième, hein, parce que le premier roman, c'est toujours foiré. Mais mon premier roman était raté complètement. Enfin, je l'ai terminé. Des livres que j'ai abandonnés, non. En fait, non. J'ai abandonné des idées, parfois, des idées de livres. Généralement parce que j'en avais parlé avant. C'est-à-dire que il suffit que je raconte. C'est pour ça que quand, si vous aviez prévu ça, c'est même pas la peine. Quand on me dit quelle est votre prochaine histoire que vous allez raconter, je ne répondrai pas parce que si je vous raconte, j'ai plus envie de l'écrire. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est non, mais c'est vrai, c'est comme un parfum qui était vanté. Je sais pas, je parle jamais de ce que je vais faire avant parce que voilà, parce que sinon ça a plus d'intérêt. C'est pas la peine de continuer. Mais en revanche, oui, il y a.
Et l'âme sœur, le principe de l'âme sœur, là c'est en fait un couple hein, qui ils se sont, c'est presque une gémelléité. Il y a quelque chose de l'ordre de l'évidence. Et donc l'âme sœur, vous y croyez? Pas forcément en amour d'ailleurs, parce que ouais. Quand on lit votre livre, ces deux personnages, on pourrait imaginer que ce soit deux copains. Enfin, c'est une histoire d'amour, mais ça pourrait être aussi ce principe de l'âme sœur de l'autre avec qui on ne peut pas, enfin, on ne peut pas faire sans.
Oui, mais les amours véritables sont d'abord des amitiés, je pense. Il faut qu'il y ait cette. Je pense qu'on ne peut pas construire un amour durable ou véritable uniquement sur la passion, sur le désir, sur tout ce qui constitue, je dirais, le feu, disons, de la ce que les Italiens appellent l'innamoramento, c'est-à-dire le moment où on tombe amoureux. Il y a tout ça qui brûle, mais si au fond de tout ça il n'y a pas quelque chose qui se tisse et qui est plutôt de l'ordre de l'amitié, ça n'est pas viable. C'est-à-dire que je pense que toutes les amours longues sont des amitiés et que alors elles deviennent ou elles le sont dès le départ, j'en sais rien, mais en tout cas là C'est quelque chose qui se construit. Et alors, qui se construit, ce qui est dans le cas, c'est pas du tout un cas général d'ailleurs, mais dans leur cas particulier, ça se construit dans l'échec. C'est-à-dire que c'est quand, si vous voulez, il y a une tension entre leur vie personnelle. Ça, par contre, j'y crois beaucoup. C'est-à-dire que, et c'est aussi pour ça que souvent les amours juvéniles sont soumises à une très très rude épreuve. C'est que quand vous êtes très jeune et que les deux ont le même âge, vous partez. Si tout le monde travaille, fait une carrière, il y a une espèce de tension parce que chacun s'occupe de sa propre vie en quelque sorte. Et c'est une tension. C'est ce qui leur arrive. C'est-à-dire que elle fait sa carrière, lui, il fait la sienne. Et au fond, pour arriver au succès dans ces carrières, ils vont s'éloigner en fait. Et c'est quand cette urgence de la réussite va s'atténuer que, à ce moment-là, et en quelque sorte, ils vont revenir l'un vers l'autre, c'est-à-dire qu'ils seront moins pris par les nécessités sociales du travail, du succès, de la vie sociale, du paraître, etc. qui vont se rapprocher et que c'est à ce moment-là qu'ils vont créer finalement cette ou en tout cas se révéler cette amitié profonde qui les unit. Voilà.
Enfin, vous avez quand même un coup de foudre, c'est-à-dire que Ludmila est sur une branche d'arbre nue et 50 ans plus tard, elle l'aime et elle aime un homme qui l'aime toujours.
Enfin, elle est descendue de la branche entre-temps quand même, hein, parce que
ils parlent pas la même langue, ils se comprennent pas. Vous racontez vraiment l'histoire de l'âme sœur.
Oui, bah vous voyez, peut-être que je suis plus romantique que vous croyez au départ.
Hein. Moi, je crois rien. Mais vous, est-ce que vous êtes plus romantique que vous le croyez?
Je suis plus romantique. Oui, enfin, c'est-à-dire que je me suis rendu compte avec le temps et en écrivant des livres, parce que au fond, ça sert à ça aussi, quand même. Enfin, ça sert d'abord à parler aux autres, hein, les livres. Mais en même temps, on regarde un peu ce qu'on a fait au bout d'un moment. Et on vous renvoie une image. Et cette image, je me suis rendu compte qu'au fil des livres, finalement, oui, elle était peut-être pas romantique, j'en sais rien, mais en tout cas, qu'il y a, oui, chez moi, une forme d'idéal, en effet, autour de choses assez, assez simples, et que je n'ai pas forcément connues, d'ailleurs, ni atteintes, mais comme, voilà, comme l'amour, comme une forme de... voilà. M'a dit donc, m'en fait bien des trucs.
J'ai encore le temps de vous poser une question.
Ouais.
À un moment donné, Edgar dit à sa fille, regarde ce qu'on te reproche et surtout utilise-le.
Oui, ben c'est la phrase de Cocteau. Cocteau disait, ce que les autres te reprochent, cultive-le, c'est toi.
Alors qu'est-ce que vous vous reprochiez? Qu'est-ce qu'on vous reprochait, Jean-Christophe Ruffin, que vous avez cultivé?
Je savais bien que ça allait mal tourner cette affaire.
J'ai pas le droit de vous demander ce que vous allez écrire alors.
Non, bah oui. Non, je préfère cette question-là, oui.
Moi aussi.
Non, mais au moins on m'a reproché mes rêves, si vous voulez. C'est-à-dire que j'entends passer pour quelqu'un qui n'était pas adapté au monde tel qu'il est, quoi. C'est-à-dire que c'est d'ailleurs probablement pour ça que. J'ai quitté les carrières identifiées parce que j'avais cette espèce de propension à développer un imaginaire qui était fort, qui était très présent. Et quand j'étais enfant, si vous voulez, ça m'était reproché parce que j'étais pas du tout présent. J'étais un mauvais élève, non pas parce que j'étais un très mauvais élève, parce que j'étais pas là, quoi, simplement parce que quand je lis deux pages d'un livre, je me mets à rêver, à penser à autre chose, etc. Donc c'était pas propice à la concentration. Donc tout ça, effectivement, c'est Bernanos qui disait ça. Il disait, on m'a toujours dit d'être sérieux, d'apprendre, d'être rigoureux, etc. Et il disait, et finalement, ce sont mes rêves qui me font vivre. Voilà. Ben moi aussi. C'est-à-dire, c'est mes rêves qui me font vivre aujourd'hui. Et j'en suis très, très heureux. C'est-à-dire que... Mais encore une fois, ça m'a été reproché longtemps.
Mais nous aussi, on est contents que vous... Merci Jean-Christophe Ruffin.
Merci beaucoup.